Je suis dans le chapitre 15 de Marc. Jésus a été condamné à mort par les chefs du peuple d'Israël ainsi que par les religieux. Il a été livré à Ponce Pilate, le gouverneur romain, afin que ceux-ci le crucifient. Pilate était un gouverneur sévère qui méprisait les Juifs. Il avait l'entière responsabilité des décisions du tribunal. Le procès, habituellement tenu en public, commençait par une mise en accusation par le plaignant, suivi d'un interrogatoire par le magistrat et du témoignage de l'accusé et des autres témoins. Lorsque toutes les dépositions étaient faites, le magistrat consultait habituellement ses conseillers juridiques et prononçait ensuite la sentence, qui devait être exécutée immédiatement. On ne cherchait pas midi à 14 heures en ce temps-là. Donc Pilate va suivre le processus normal. Au lieu de confirmer la sentence des religieux, il insista pour entendre la cause lui-même. Seule une des accusations qui avait été portée contre Jésus méritait son attention, à savoir sa soi-disant revendication d'être roi, ce qui était une trahison contre César, crime punissable de mort. Je continue le texte. Pilate l'interrogea, « Es-tu le roi des Juifs ?»« Tu le dis toi-même, » lui répondit Jésus. Les chefs des prêtres portèrent contre lui de nombreuses accusations. Pilate l'interrogea de nouveau et lui dit, « Eh bien, tu ne réponds rien? Tu as entendu toutes les accusations qu'ils portent contre toi ?» Mais au grand étonnement de Pilate, Jésus ne répondit plus rien. Versets 2 à 5. La réponse de Jésus, comme quoi il était d'une certaine façon le roi des Juifs, était beaucoup trop vague et ne fournissait pas une base solide pour une condamnation selon la loi romaine. Pilate retourne vers ses accusateurs pour obtenir plus d'informations. Les religieux en profitent pour accabler Jésus de tous les maux. À deux reprises, Pilate conduit Jésus à l'intérieur du palais pour l'amener à répondre à ses accusateurs et à se défendre. Mais en vain, il refuse de coopérer. Le texte utilise une négation très énergique qui signifie « Jésus ne donna absolument plus aucune réponse ». Un tel silence était très rare devant un tribunal romain et confirme le pressentiment initial du gouverneur que Jésus n'est pas coupable. L'évangile selon Luc donne une précision supplémentaire qui est la suivante. Pilate apprend que Jésus est galiléen et, ne voulant pas porter de jugement contre lui, il l'envoie à Hérode Antipas, le gouverneur de la Galilée, lui aussi de passage à Jérusalem à ce moment-là. Mais Hérode le renvoie à Pilate, qui se retrouve à nouveau coincé. Lui aussi, comme Pierre précédemment, est en train de passer un sale quart d'heure. Je continue le texte. À chaque fête de la Pâque, Pilate relâchait un prisonnier, celui que le peuple réclamait. Or, à ce moment-là, il y avait sous les verrous le nommé Barabbas avec les agitateurs qui avaient commis un meurtre au cours d'une émeute. Versets 6 à 7. Au lieu d'accorder à Jésus un acquittement pur et simple, Pilate, en fin stratège, choisit l'amnistie habituelle de Pâques en pensant que le peuple demanderait la libération de Jésus. Décidément, ce Pilate est le plus grand de tous les politiciens véreux que la terre ait jamais porté. Je continue. La foule monta donc au prétoire et se mit à réclamer la faveur que le gouverneur lui accordait d'habitude. Pilate répondit, « Voulez-vous que je vous relâche, le roi des Juifs ?» Il s'était rendu compte, en effet, que les chefs des prêtres lui avaient livré Jésus par jalousie. Versets 8 et 10. Pilate saisit, croit-il, une occasion de manifester son mépris à l'égard des chefs religieux. Il a compris que ce n'est pas par loyauté à l'égard de Rome, mais par envie et haine que ces vipères lui ont livré Jésus. Il espère libérer le Christ et annuler le complot des chefs religieux. Je continue. Mais les chefs des prêtres persuadèrent la foule de demander qu'ils libèrent plutôt Barabbas. Mais alors, insista Pilate, que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? De nouveau, ils crièrent, « Crucifie-le ! Qu'a-t-il fait de mal ? Eux cependant crièrent de plus en plus fort « Crucifie-le !» Versets 11 à 14. Mais tel est pris qu'ils croyaient prendre. Les religieux ont réussi à forcer la main de Pilate et par lâcheté, il a cédé. Il est très mal dans ses souliers. D'un côté, il a Barabbas, un voleur, un meurtrier, un nationaliste qui fomentait une révolte contre Rome. Et de l'autre se trouve Jésus, un homme qui ne fit que le bien toute sa vie et dont Pilate est maintenant persuadé de l'innocence. Pourtant, il n'a pas le courage de faire front à la foule qui avait été chargée d'exiger la mort de Jésus. La clameur populaire exige que le Christ soit crucifié. Je continue. Alors Pilate, voulant donner satisfaction à la foule, leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre Jésus à coups de fouet, il le livra pour qu'on le crucifie. Verset 15. Pilate écoute l'opportunisme politique plutôt que la justice. Voilà ce que précise un autre évangile. Mais les chefs des Juifs redoublèrent leur cri « Si tu relâches cet homme, tu n'es pas l'ami de César. Si quelqu'un se fait roi, il s'oppose à César. » Fin de citation. Maintenant, Pilate découvre avec horreur qu'il va lui falloir prendre une décision personnelle vis-à-vis du Christ, ce qu'il voulait éviter coûte que coûte. Son sort est entre ses mains. C'est exactement ce que tout être humain est également obligé de faire, tôt ou tard. Chacun d'entre nous doit prendre parti pour ou contre lui et il ne peut y avoir de bulletin nul. Refuser de décider, c'est voter contre le Fils de Dieu. Pilate est acculé contre le mur. Même s'il croit Jésus innocent, il écoute donc l'opportunisme politique plutôt que la justice. Il prend peur pour son avenir et pour éviter que le peuple ne se plaigne de lui à l'empereur Tibère, ce qui aurait fait mauvaise impression sur son CV. On le comprend. Pilate consent à l'assassinat du Christ. La condamnation qui attendait auparavant Barabbas retombe maintenant sur la tête de Jésus. Ce bandit de grand chemin a été sauvé de la crucifixion par le Christ. Je me demande ce qu'il a pensé, ce qu'il est devenu. A-t-il compris que c'était lui qui aurait dû être crucifié à la place de Jésus? A-t-il compris que Jésus avait pris sa place? Dans un sens, je suis aussi Barabbas, puisque Jésus a pris ma condamnation sur lui. Maintenant commence le calvaire de Jésus. La flagellation romaine était brutale et précédait toujours l'exécution d'une peine capitale. On déshabillait le prisonnier qui était attaché à un poteau et plusieurs gardes le frappaient dans le dos avec un fouet fait de lanières de cuir parsemées de morceaux d'os ou de métal. Cette condamnation était souvent fatale. Pilate espérait encore que le peuple prendrait pitié de lui et serait satisfait. Mais cela échoua comme ses tactiques précédentes. Les gens insistèrent encore et toujours pour qu'il soit crucifié. Je continue. Les soldats emmenèrent Jésus dans la cour intérieure du palais et firent venir toute la cohorte. Alors ils le revêtirent d'un manteau de couleur pourpre et lui posèrent une couronne tressée de rameaux épineux, puis ils le saluèrent en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils le frappaient à la tête avec un roseau et crachaient sur lui, s'agenouillaient et se prosternaient devant lui. Versets 16 à 19. Les soldats étaient particulièrement cruels, brutaux et vicieux. Ils ridiculisèrent Jésus par des paroles méprisantes et des insultes. Le temps des verbes indique qu'ils continuaient à le frapper sans cesse. Ils avaient surtout de la haine pour la nation juive qui voulait depuis longtemps avoir son propre roi. Jésus cristallisait toute leur hargne. Je continue. Quand ils eurent fini de se moquer de lui, ils lui arrachèrent le manteau de couleur pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent hors de la ville pour le crucifier. Verset 20. Un peloton d'exécution de 4 soldats et d'un centurion emmenèrent Jésus pour le crucifier. La mort par crucifixion était une des formes de peine capitale les plus cruelles jamais imaginées. Le martyre de Jésus devant les autorités romaines était exemplaire pour les lecteurs de Marc, qui pouvaient être soumis à une raillerie semblable en cas de persécution dirigée contre les chrétiens. Le récit que donne Marc des souffrances physiques de Jésus est poignant, mais limité. Elles étaient moins importantes que son accablante détresse d'être chargé du péché du monde et séparé de la communion d'avec son Père. Je continue. Ils obligèrent un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, à porter la croix de Jésus, et ils amenèrent Jésus au lieu appelé Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne », versets 21 à 22. Un condamné portait habituellement la traverse de la croix, pesant environ 45 kilos, à travers les rues de la ville jusqu'à l'endroit de sa crucifixion. Jésus commença à la porter, mais il était si faible suite à la flagellation que les forces lui manquèrent. Les soldats saisirent par hasard un passant et le forcèrent à porter la poutre le reste du chemin. Ce Simon était un pèlerin venu à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Le fait que Marc mentionne les noms de ses fils prouve qu'ils étaient des disciples connus de ses lecteurs romains. Cet homme a fait ce qu'auraient dû faire les disciples s'ils ne s'étaient pas enfuis en courant. Je continue. Ils essayèrent de lui donner du vin additionné de myrrhe, mais il n'en prit pas. Ils le clouèrent sur la croix, puis ils partagèrent ses vêtements en tirant au sort ce qui reviendrait à chacun. Versets 23 à 24. La myrrhe est la sève d'une plante ayant des propriétés anesthésiques. Ce mélange qu'on essaya de lui donner était une sorte de drogue destinée à atténuer la souffrance des crucifiés. Selon la tradition juive, certaines femmes de Jérusalem fabriquaient cette boisson sédative. Mais Jésus choisit de faire face à la mort et à son calvaire muni de toutes ses facultés. Marc écrit simplement « Ils le crucifièrent ». Ses lecteurs romains n'avaient pas besoin d'explications supplémentaires. En réalité, aucun des évangiles ne donne de détails, mais rapporte seulement des incidents qui se produisirent autour du supplice. L'Esprit de Dieu met un voile sur cet événement comme pour dire « Je ne dirai rien qui puisse satisfaire une curiosité malsaine, morbide et sadique. » La pensée que personne ne fut jamais traité si honteusement comme le fut le seul, parfaitement sage, saint et excellent personnage jamais paru sur la terre, conduit l'esprit sérieux à se poser des questions concernant la méchanceté, la cruauté, la haine et le pouvoir du mal dans le cœur de l'homme. La mort par crucifixion, résultant d'un épuisement extrême et de la soif, était douloureuse et lente et survenait habituellement après 2 ou 3 jours. On la hâtait parfois en cassant les jambes du crucifié. C'était la mort réservée aux plus abominables malfaiteurs. Ainsi la croix et la honte sont liées. Dieu ayant été déshonoré par la rébellion de l'homme, Christ lui donna satisfaction en se soumettant à la plus grande disgrâce dont la nature humaine était chargée. C'était une mort maudite et considérée ainsi dans la loi juive. Les biens personnels de la victime devenaient la propriété du peloton d'exécution. Dans le cas de Jésus, les 4 hommes se partagèrent ses vêtements, un manteau, une tunique, une ceinture et des sandales, en jouant au dé. Sans le savoir, ils accomplissaient une prophétie de l'Ancien Testament que je cite. « Ma gorge est desséchée comme un tesson d'argile, ma langue colle à mon palais. Tu me fais retourner à la poussière de la mort, des hordes de chiens m'environnent. La meute des méchants m'assaille, ils ont percé mes mains, mes pieds, je pourrais compter tous mes os. Ils me regardent, ils me toisent, ils se partagent mes habits et tirent au sort ma tunique. » Fin de citation. Je continue le texte. Il était environ 9 heures du matin quand ils le crucifièrent. L'écriteau sur lequel était inscrit le motif de sa condamnation portait ces mots. « Le roi des Juifs ». Avec Jésus, ils crucifièrent 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Versets 25 à 28. C'était une coutume romaine d'écrire le nom du condamné et une description de son crime sur un écriteau que l'on accrochait à la croix. En crucifiant 2 brigands de grand chemin en compagnie du Christ, Pilate accomplit sans le savoir une prophétie que je cite. Il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et s'est laissé compter parmi les malfaiteurs, car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre. Fin de citation. Ainsi Jésus était considéré coupable tout autant que les truands de la pire espèce. Je continue le texte. Ceux qui passaient par là lui lançaient des insultes en secouant la tête et criaient « Et toi qui démolis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix !» De même aussi, les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les spécialistes de la loi. Ils se disaient entre eux « Dire qu'il a sauvé les autres et qu'il est incapable de se sauver lui-même, lui, le Messie, le roi d'Israël, qu'il descende donc de la croix, alors nous verrons !» Et nous croirons. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Versets 29 à 32. Jésus fut de nouveau soumis à des insultes. On le raillait et continuait à le calomnier. Le désir de longue date des chefs religieux était en train de se réaliser. Cette moquerie, dire qu'il a sauvé les autres et qu'il est incapable de se sauver lui-même, exprimait une profonde vérité spirituelle. En effet, pour sauver les autres, les délivrer de la culpabilité de leurs fautes, Jésus ne devait pas se sauver lui-même et échapper aux souffrances et à la mort prescrites pour lui par Dieu. Je continue. À midi, le pays tout entier fut plongé dans l'obscurité et cela dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Verset 33. Jésus fut pendu à la croix pendant 6 heures en tout. 3 à la lumière du jour, de 9 heures à midi, et ensuite 3 de 12 heures jusqu'à 15 heures, temps durant lequel des ténèbres totales s'abattirent sur la Palestine. Il s'agissait vraisemblablement d'une éclipse solaire miraculeuse, un signe cosmique du jugement de Dieu sur la pourriture de l'humanité qui avait été placée sur Jésus. Pendant les 3 premières heures, Jésus souffrit principalement entre les mains des hommes, alors que pendant les 3 suivantes, il subit le châtiment de Dieu pour eux, portant et expiant leurs fautes. L'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, exprime cette vérité de la façon suivante. Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ. En effet, Dieu était en Christ réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes. Fin de citation. Ces ténèbres qui sévirent pendant au moins 3 heures représentait aussi un jugement sur Israël qui avait rejeté son Messie, celui qui portait les offenses des hommes. Cette obscurité illustrait aussi de façon visible ce que ressentait et exprima le cri de Jésus. Je continue. Vers 15 heures, Jésus cria d'une voix forte « Eli, Eli, lama sabachthani », ce qui signifie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Verset 34. Le pourquoi de Jésus ne demande pas une réponse. C'est le cri d'un homme droit, injustement traité. Marc ne mentionne que ses seules paroles des 7 fois où Jésus a parlé alors qu'il est sur la croix. Cette phrase est tirée d'une prophétie de l'Ancien Testament. C'est la seule des prières de Jésus qui nous soit rapportée dans laquelle il n'appelle pas Dieu « Abba », c'est-à-dire le terme affectueux pour « papa ». Son cri exprimait à la fois un rejet par Dieu dans un sens de jugement juridique et une affirmation de sa relation avec lui en tant que père. Portant la malédiction du péché et le jugement de Dieu, il connut l'horreur insondable de la séparation d'avec lui, qui était saint, ne peut voir ou accepter le mal sous aucune forme. Voilà la raison pour laquelle Jésus fut abandonné à ce sort tragique sur la croix. Je continue le texte. En entendant ces paroles, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Voilà qu'il appelle Élie. » Un homme courut imbiber une éponge de vinaigre, la piqua au bout d'un roseau et la présenta à Jésus pour qu'il boive, en disant « Laissez-moi faire, on va bien voir si Élie vient le tirer de là. » Versets 35 à 36. Quelques badauds juifs comprirent mal le cri de Jésus et l'interprétèrent comme un appel à Élie, un prophète de l'Ancien Testament. Selon la croyance populaire, cet homme venait dans leur période de détresse délivrer les justes qui souffraient. Comme quoi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Depuis toujours, l'homme religieux est plutôt crédule et prêt à croire n'importe quoi. L'évangile selon Jean précise que Jésus a dit « J'ai soif » et c'est suite à cette demande que quelqu'un, un soldat sans doute, lui donna à boire du vinaigre dilué dans un mélange d'œufs et d'eau. La raison de ce geste de bienveillance apparente était tout simplement dans le but de lui prolonger un peu la vie de façon à pouvoir peut-être assister au spectacle son et lumière d'Élie venant au secours du Christ. Sait-on jamais? Il ne faudrait surtout pas manquer une occasion de se distraire, surtout qu'à cette époque, les gens n'avaient pas la télé pour combler leur soif de violence, comme on peut le faire aujourd'hui. Alors le bas-peuple se distrayait comme il pouvait et satisfaisait son penchant sadique en regardant mourir les crucifiés. Les Romains, eux, allaient au cirque voir les gladiateurs s'entretuer ou se faire déchiqueter par les bêtes sauvages. Mais on n'est pas plus civilisé qu'eux, simplement plus raffiné. Les jeux vidéo et les films me permettent d'assassiner mon prochain virtuellement et ainsi d'assouvir mon besoin de tuer. Mais comme je ne fais de mal à personne, alors je suis dans la légalité vis-à-vis de la loi des hommes. Oui, mais voilà, la loi de Dieu est bien différente. Et sur ces paroles, je finis pour aujourd'hui.